Chapitre 1er, le disparu. Mon cher Courville, m'avait dit Martin Huma, venez chez moi, sans faute, demain. Je serai comme toujours très content de vous voir. Et vous me direz ce qu'on pense maintenant de ma mort dans le public, si on finit par croire que je suis défunt, ce que disent enfin vos confrères. Le lendemain donc, je revenais rue des Prouvaires chez Martin Huma à l'heure qu'il m'avait fixée. Je le trouvais étendu comme la veille, sur son canapé, dans la même position. C'était à croire qu'il n'avait pas bougé, ou que notre dernière entrevue n'avait pas été interrompue. « Ah, bonjour, ami Courville, » me dit-il de sa voix claire et joyeuse. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Moi, mais je me porte à merveille. Et vous, comment vous sentez-vous »« Moi, mais admirablement. Je suis toujours mort. »« Vous n'avez pas commis l'imprudence de sortir, au moins. »« Moi, sortir ? Ah, mais non. Je n'ai pas bougé. Je suis trop bien mort. C'est un état exquis. » Et je comprends pourquoi les bienheureux morts ne tiennent pas à redevenir vivants. Quand ils sont si tranquilles, ils auraient vraiment tort de se mêler encore à notre misérable vie, où l'on se donne tant de mal, où l'on prend tant de fatigue, court de si grands dangers, rien que pour traverser une rue. Tout cela afin de gagner un peu d'argent. Quand la rigueur des temps modernes vous oblige à en dépenser tant, pour en définitive un très piètre résultat qui nous fait bien rire dans l'au-delà. Presque sans bouger, il alluma une cigarette et me demanda « Et le public, voyons, mon bon Courville, commence-t-il à croire à mon trépas ? Pas plus qu'aux premières heures. Et vos confrères de la presse ? Ils doivent vous questionner, vous, mon fidèle compagnon d'expédition. Le public ne croira que vous l'abandonnez que lorsqu'il aura en masse suivi votre cercueil. Et mes confrères disent avec notre égoïsme professionnel « Martin Huma ne nous jouerait pas le tour, malgré sa modestie habituelle, de se faire enterrer sans nous prévenir. Il n'est pas homme à nous faire manquer ce beau reportage. Vos confrères ont raison. Je ne suis pas encore bon à être mis en terre. Mais quand même, je suis mort et je dois rester mort quelque temps encore. » Il ajouta, en riant, « Mais par contre, mon cher Courville, je crois que vous, naturellement, et vos aimables confrères, vous serez sous peu content de Martin Huma. Vous avez préparé quelque chose ? Je n'ai pour le moment rien d'autre à faire. » En plus de son appartement officiel de la rue Lepic, que l'on connaissait et qui était voisin du mien, Martin Huma, pour les besoins de sa difficile et dangereuse profession, en avait deux autres, en des quartiers bien différents. Ceux-là, personne ne les soupçonnait. À part ses deux lieutenants, Prosper et Philippe, deux ou trois hommes choisis de sa brigade, j'étais le seul qui ait pu y pénétrer. Faveur que me valait la vieille et solide amitié qui me liait depuis tant d'années, tant de campagnes, au vaillant détective. Un de ces appartements se trouvait à Passy. Nous n'en parlerons pas pour le moment. Le second, qui seul à présent nous intéresse, comprenait un côté de l'entresol d'une maison de la rue des Prouvaires, dans le quartier des Halles, à quelques pas du commissariat et non loin de la Sûreté. Cet appartement était gardé par un vieil agent en retraite tout dévoué à Martin Huma. Le détective y occupait deux pièces. Une lui servait de chambre à coucher, l'autre de cabinet de travail. Deux chambres y étaient réservées à Prosper et à Philippe. Le concierge de la maison était également un ancien agent de police, en qui, naturellement, le détective pouvait avoir toute confiance. Mais jamais ni Martin Huma ni ses lieutenants ne venaient dans cet appartement, sans chaque fois, par extrême prudence, prendre une personnalité nouvelle. Impossible par conséquent de les reconnaître et de surprendre le secret. De plus, ils ne passaient que rarement devant la loge du concierge et ne montaient pas par l'escalier des locataires, encore moins par l'ascenseur qui, dans cette vieille maison, n'existait pas. Ils passaient par le bistrot. Ce bistrot était un débit de vin et restaurant, l'ami Félix, comme on en voit beaucoup dans les rues autour des Halles. Il ne fermait, pour ainsi dire, jamais. Sa clientèle se composait des maraîchers, des bouchers, de tous ceux, en somme, qui avaient affaire aux Halles et qui, depuis minuit, se sentaient grand besoin de se restaurer, de prendre quelque chose de chaud, de solide. La soupe aux choux de l'ami Félix était célèbre, ses pommolars incomparables, sa saucisse purée de pois imbattable. Quant à son vin blanc, son gaillac, on ne lui en connaissait pas d'égal. Lard, saucisse, jambon venaient honnêtement du Limousin et le gaillac arrivait en tonneau d'origine. La réputation des plats de l'ami Félix dépassait la clientèle des Halles. À la sortie des théâtres, les spectateurs avisés du Châtelet et de Sarah Bernard venaient se remettre ici de leurs émotions, sans compter les mondains et les snobs à leur descente des boîtes de Montmartre. Pour ma part, j'y venais souvent avec des confrères, des reporters, des hommes de lettres, aimant encore le pittoresque de Paris. Le patron Félix était une sorte de colosse, un Hercule, bon garçon, bon vivant, qui, en vrai Limousin, gagnait habilement ses millions en flattant la gourmandise de ses contemporains. Entre nous, il n'était pas sans attache avec le service de Martin Numa, et il professait pour le chef une admiration sans bornes et lui était un dévouement à toute épreuve. Son établissement se composait de la première salle, le bar, où se trouvait le fameux comptoir d'étain, le zinc, d'une seconde salle, petit café devenant salon, réservé au déjeuner, au dîner et au souper la nuit. Entre ces deux salles, derrière le comptoir, partait un escalier en colimaçon qui menait aux appartements que Félix occupait à l'entresol. Appartement voisin de palier de celui de Martin Numa, de sorte que tout cet étage était, on le voit, habité par des gens de police. Martin Numa pouvait donc se considérer ici comme gardé de façon unique. Il était absolument impossible de pénétrer chez lui sans montrer patte blanche. Félix ne laissait pas faire l'ascension de son escalier en colimaçon, mais Martin Numa, ses hommes, bien connus de Félix, montaient par cet escalier, entraient dans l'appartement du bistrot dévoué et passaient chez le détective sans que le moindre regard indiscret les pût suivre, sans crainte de trahison. Moi seul, profane, je pouvais, bien en secret, quand Félix était assuré d'un coup d'œil qu'il n'y avait aucun danger, me faufiler par cet escalier pour aller rendre visite à Martin Numa s'il m'avait donné rendez-vous dans cet appartement. Donc, aujourd'hui, j'étais encore venu déjeuner chez l'ami Félix. Prévenu, Félix me laissa passer par son escalier en colimaçon, et peu après, je me trouvais dans la chambre de Martin Numa, comme chaque fois. Martin Numa était étendu sur son canapé qui lui servait de lit de repos comme je le retrouvais toujours. Il fumait tranquillement sa cigarette. « Bonjour, Courville, c'est gentil d'être venu. Comment allez-vous aujourd'hui ? Un peu mieux qu'hier, mais je suis toujours mort. » Après une bouffée de fumée, il ajouta « Tellement mort que j'ai arrêté le plan d'une nouvelle expédition qui, je crois, mon cher Courville, vous fournira un reportage amusant. » Je regardais avec admiration cet homme qui avait échappé à un si grand danger, que ses seconds dévoués avaient ramené brisé, noyé, vraiment à demi-mort, et qui pensait déjà à repartir. Il se tenait là, sur son canapé, tranquille, comme dans un simple farniente, fumant sa cigarette, semblant avoir oublié cette heure d'épouvante où la mort, de si près, le frôla de son aile terrible. Cet homme malade, blessé, malgré son énergie, accablé, qui vaillamment songeait déjà à se remettre en campagne, à accomplir un nouvel acte d'héroïsme qui me fournirait à moi un reportage amusant. Au bout de quelques minutes de silence, Martin Numa, sans quitter sa pose nonchalante, comme s'il se parlait à lui-même, dit à haute voix pour moi « Oui, je suis mort pour eux. Je suis bien mort. Ils n'en doutent pas. Tous sont persuadés que sur moi le mur s'est fermé, que ce ciment à prise immédiate m'a enveloppé comme un cercueil éternel que personne ne découvrira jamais. Tous ont foi dans le coup de pic de leur chef qui creva la voûte et remplit d'eau le souterrain. Ah, cher ami, quel horrible souvenir ! Ils sont donc persuadés tous que Martin Numa n'existe plus. Et cependant, tout mort qu'il est, Martin Numa leur fait encore peur. Oui, c'est ce que me disaient Prosper et Philippe ce matin. C'est très glorieux pour moi. Justement mérité. Ils ont tellement peur de Martin Numa, même mort, que pas un n'a osé revenir dans le souterrain. Pas un n'a le courage de reparaître sur le théâtre de leur sinistre exploit, de passer devant mon tombeau. C'est à croire que mon exécution a été pour eux la cause de la débandade de leur association de terribles malfaiteurs. En effet, aucun de vos hommes n'a perçu sur terre ou dans les sous-sols une figure suspecte. Oui, ils sont prudents, ils sont habiles. Ils n'ont pas changé en apparence le petit train paisible de leur vie, ni la marchande de meubles qui fournit à mon ami Courville des fauteuils en simili authentique, ni le trafiquant de reconnaissance, ni les allures de la jolie femme brune jouant les commères dans les revues de music-hall, la femme de chambre et la nièce, par ailleurs. Gabrielle de Bellerie, dont la photographie se trouvait dans le tiroir de la table de ce malheureux Vidal. Oui, le malheureux Vidal qu'ils ont dû peut-être traiter comme moi. Mais Vidal, qui n'avait pas comme moi un Prosper et un Philippe pour le tirer de leurs griffes. Pauvre diable. Ne disons rien, nous ne savons pas. Il faut voir. N'oublions pas la carte postale de la jolie fille. N'oublions pas les bribes de tabac blond, les pompons de mimosa. Vous pensez que le père Vidal... Le père Vidal avait une sacoche bien garnie ce jour-là. Et c'est surtout à l'âge du père Vidal que l'esprit est lent et la chair faible. Gabrielle en commère, en femme de chambre, en nièce de Madame Marc, est toujours bien jolie. Martin Numa se tut encore pendant quelques instants. Il alluma une nouvelle cigarette et reprit. Revenons à nos bandits. En apparence, ils n'ont donc rien changé à leur façon de vivre. Leurs réunions ont toujours lieu dans ce petit café où nous les avons déjà vus se rencontrer. On voit toujours entrer dans la maison bizarre de la rue Milton, la nuit, des locataires qui ne demandent pas le cordon à la concierge. Cependant, mon bon Courville, malgré cette apparence de calme et de tranquillité, ces gens ne vivent pas. Ils tremblent à tout moment. On les sent prêts à prendre la fuite à la première alerte. Ils ne vous échapperaient tout de même pas. On ne peut rien affirmer. Mais pour le moment, je vous le disais, ils n'ont pas osé reprendre leurs excursions souterraines. Personne ne va jusqu'au regard de Notre-Dame de Lorette. Ils restent dans la maison de la rue Milton, en conciliabule secret. Mais à ces réunions, ils ne sont plus une douzaine comme autrefois. Ils y viennent 5 ou 6 tout au plus. Ce qui prouve que derrière le chef redoutable sont restés peu de soldats. Le chef est un bandit très fort, très habile, un bandit de carrière. Que, par conséquent, vous devez connaître. Sans doute. Mais je ne l'ai pas encore reconnu. Il faut que j'arrive à le démasquer. Aussi serais-je désolé d'avoir détruit leur association. J'espère même qu'elle n'est nullement démolie, car je tiens à savoir quel est son but et quels sont les gaillards qui la composent. À mon avis, elle ne s'est pas constituée uniquement pour dévaliser un encaisseur, le père Vidal. Elle a d'autres projets plus grands. Certainement. Je compte donc sur mon absence, sur ma mort, pour amener le calme dans ces esprits alarmés, pour faire renaître les réunions d'autrefois, et occasionner de nouvelles excursions en habit d'écoutier dans ces souterrains que le métro a cru devoir respecter. Il faut donc que je reste mort pour quelque temps encore. En riant, Martin Numa ajouta « Et vous voyez, mon cher Courville, que je prends très à l'aise mon métier de défunt. Vraiment, il est très agréable d'être mort. C'est un état tout à fait charmant. » 2 jours après cette entrevue avec Martin Numa dans son appartement de la rue des Prons-Verts, je reçus une lettre d'une écriture fine, déliée, à l'encre violette, sur un papier à teinte douce et parfumée. Cette lettre, lettre de femme assurément, dont je ne reconnus pas sur le moment l'écriture, me causa quelque étonnement. Enfin, après avoir bien examiné cette enveloppe, je me décidai à l'ouvrir. Le contenu de cette lettre me surprit encore davantage. Élève, en somme, du grand détective et devenu très méfiant, je crus bon d'aller la montrer à Martin Numa. Il la prit, la lut en souriant, et me la rendit en disant « Eh bien, mon cher Courville, il faut vous rendre à cette aimable invitation. Vous ne trouvez pas qu'elle est singulière, bizarre? Pourquoi? Allez-y, il faut voir. Bon, j'irai, nous verrons. » Cette lettre me demandait de venir assister à un salut qui devait se donner dans une des chapelles de l'église de la Trinité pour une œuvre de bienfaisance. On devait entendre des artistes de l'opéra et des exécutants des grands concerts. On comptait sur ma présence pour le compte-rendu de la note qui serait envoyée aux journaux. On se recommandait d'une personne amie et la signature de cette lettre demeura pour moi tout à fait illisible, indéchiffrable, bien que cependant elle garda un certain caractère qui ne m'était pas inconnu. C'était une écriture que j'avais vue déjà, certainement, que je reconnaissais maintenant, mais que je ne pouvais déchiffrer. Néanmoins, à tout hasard, mon métier de reporter m'y poussant, je me rendis à l'heure dite à l'église de la Trinité. À la chapelle indiquée, il y avait en effet une cérémonie religieuse, un salut quelconque, et j'entendis chanter une voix fort agréable. Je m'étais assis vers les derniers rangs de chaises, quand tout près de moi, deux bonnes dames en noir vinrent prendre place, l'une sur un prie-dieu à côté de moi, l'autre sur une chaise devant moi. C'étaient deux dames d'apparence aisée qui se mirent aussitôt à suivre avec grand intérêt non seulement le chant que l'on entendait, mais l'office du prêtre. Elles tenaient la tête baissée et gardaient le plus souvent les yeux sur leur livre de piété. La bonne dame, qui se trouvait à droite, ayant fermé son livre pour s'asseoir au moment où cela était nécessaire, voulut le poser sur le rebord de son prie-Dieu. Elle s'y prit assez mal et le livre, ayant basculé, tomba à terre. Mon devoir était de ramasser ce livre et de le tendre à la bonne dame, qui me remercia très gentiment en me disant « Vous êtes bien aimable, monsieur Courville. » Nos chaises se touchaient presque. J'essayai de voir qui se tenait sous une profonde capote noire. Quelle était cette dame qui me connaissait par mon nom et que le hasard avait rapproché de moi ce soir-là, qui m'intriguait aussi. Mais cela me fut impossible dans la pénombre. Cependant, la bonne dame, de sa voix blanche, me parla encore tout bas pour ne pas troubler l'office et me dit, lorsque le chanteur eut fini, « Cet artiste a beaucoup de talent. Il est vraiment heureux que l'on puisse louer l'Éternel avec un si bel organe. » Je m'inclinai très poliment et fit aussi compliment à la bonne dame, pensant que cela lui ferait plaisir sur le talent de ce chanteur. Et la bonne dame, après avoir pendant un assez long temps gardé le silence, après s'être plongée dans son livre de prière, après avoir écouté religieusement un morceau de violon accompagné par l'orgue, se penchant de nouveau vers moi, me dit « Le violon est peut-être l'instrument qui s'accorde le mieux avec l'orgue pour ses solennités. Ne trouvez-vous pas, monsieur Courville ?» Je m'inclinai de nouveau, ajoutant que j'appréciais fort aussi le violoncelle en pareille circonstance. Un nouveau silence. L'office finissait, et comme le prêtre de l'autel donnait sa bénédiction finale, quand déjà se faisait un mouvement parmi les chaises, la bonne dame, se penchant vers moi, me dit « C'est moi qui, au nom de ces dames, vous ai prié de venir ce soir pour le petit compte-rendu que nous allons vous demander de faire. » Je regardais avec un étonnement plus grand cette bonne dame que vraiment maintenant je ne reconnaissais pas. Elle reprit « Et je vous prie, monsieur Courville, qui êtes si obligeant, de vouloir bien, tout à l'heure, passer dans la sacristie, où l'on se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements que vous demanderez et les noms des personnes ayant assisté à cette cérémonie. » La foule s'écoula. La bonne dame, après m'avoir remercié encore, me tendit la main et me dit « À tout à l'heure, monsieur. » Elle se dirigea vers la sacristie, distribuant ça et là des saluts, en recevant de divers côtés. Je m'engageai donc sur la piste de cette excellente dame et à mon tour je pénétrai dans la sacristie. Contre mon attente, la sacristie était à peu près vide. Là où je m'attendais à trouver des fidèles, des membres de cette société, je ne vis que la bonne dame, celle aussi qui se trouvait devant moi au cours de l'office, plus un bedeau et deux ou trois prêtres qui rentraient enlever leur surplis. La bonne dame vint à moi et me dit « Bien que vous ne voyiez pas ici grand monde, notre société est des plus prospères. » « Oui, tout à fait prospère, » appuya la seconde dame. Elle est, vous le dira ma chère amie ici présente, placée sous l'invocation de Saint Philippe et de Saint Martin, des saints dont vous connaissez comme nous la toute-puissance. J'avais l'habitude de ces surprises et j'étais dressé à ne m'étonner de rien. Cependant, j'eus cette fois bien du mal à ne pas éclater de rire, surtout en voyant un grand diable de bedeau qui, dans une ample redingote noire, lui tombant jusqu'au talon, rentrait et déposait un éteignoir au râtelier à côté d'une armoire. Et ce bedeau m'avait des allures que je connaissais. Ce bedeau avait un regard de diable qui me paraissait quelque peu anormal dans cette maison sainte. Les prêtres, maintenant, se retiraient. Les enfants de cœur s'en allaient, les uns après les autres, riant, se faisant même des niches. Cet âge est sans respect. Comme des tableaux de gens autrefois nous ont appris que les enfants de cœur ont l'habitude de faire. Quelques bonnes dames dévotes étaient venues s'inscrire sur un registre que leur tendait le bedeau avec un sérieux imperturbable, prendre date pour une confession ou pour une autre cérémonie privée. Maintenant, le silence se faisait dans l'église qui devenait déserte, et nous nous trouvâmes bientôt tout seuls dans cette sacristie. Le bedeau énorme, les deux bonnes dames et moi. Alors, tout à coup, le bedeau vint à la porte, la referma à double tour et s'écria « Mes enfants, dépêchons !» Aussitôt, comme par enchantement, les deux bonnes dames de la confrérie de Saint-Martin et de Saint-Philippe firent sauter leurs capotes, leurs manteaux, et je reconnus mes bons amis Prosper et Philippe, tandis que le bedeau, dans un tour de main, passait un habit de cuir par-dessus un bourgeron gros bleu qu'il gardait sous sa longue redingote, et j'avais un égoutier admirable dans la personne de Martin Numa. Dans le placard servant de vestiaire au bedeau se trouvait un costume qui m'était destiné et que je dus revêtir aussitôt. Peu après, dans cette sacristie paisible et silencieuse, qui certes n'avait pas l'habitude de pareilles visites, se trouvaient quatre égoutiers en tenue parfaite, solide et imperméable. Martin Numa alors s'approcha d'une dalle énorme qui se trouvait dans le couloir de la sacristie. Au moyen d'un levier qu'il avait apporté là pour cet usage, il leva cette dalle et mit à découvert un escalier menant aux cryptes de l'église. Nous nous engageâmes peu après derrière lui, et sur nous la dalle énorme, maintenue en équilibre, se rabattit avec un bruit sourd quand Prosper, venant le dernier, eut retiré le levier qui la retenait.